C'est un fervent défenseur des catholiques que vous recevez ce matin, Isabelle Duché.
Certes, l'Église n'a pas bonne presse en ce moment. On lui reproche d'être trop présente dans l'enseignement catholique. Les abus sexuels du col à la peau, son histoire même est douteuse. Et pourtant, et c'est l'invité de Radio Présence qui le clame haut et fort ce matin, l'Église doit être fière de son histoire. Élément de preuve avec Christophe Diques, historien et auteur du livre « Pour l'Église, ce que le monde lui doit » chez Perrin. Bonjour monsieur.
Bonjour Isabelle.
Christophe Diques, vous serez jeudi 27 novembre à 18h à l'Institut catholique de Toulouse pour une rencontre d'auteurs. Est-ce que c'est une exaspération ou une envie de prendre les armes pour défendre l'Église qui vous a motivé à écrire ce livre ?
Non, c'est pas une exaspération, c'est davantage... J'ai simplement fait un constat, c'est que je présente depuis maintenant 5 ou 6 ans une émission sur KTO TV sur l'histoire du christianisme, et je vois qu'effectivement l'histoire de l'Église est faite de pages sombres, mais elle est faite aussi de pages glorieuses. Et assez étonnamment, les catholiques ne connaissent pas cette histoire. Mais même jusqu'aux plus hautes autorités de l'Église, c'est Andrea Riccardi, de la communauté Sant'Egidio, qui était un proche du pape François, qui disait que les autorités de l'Église avaient une méconnaissance de leur histoire, ce qui ne leur permettait pas de comprendre la crise du temps présent. Or, l'histoire permet précisément d'éclairer le présent afin de mieux envisager l'avenir. Donc, j'ai souhaité par ce livre, si vous voulez, que les catholiques se réapproprient leur histoire et voient au fond tout ce que l'on doit aux hommes d'Église à travers leur histoire, tout ce qu'ils ont reçu sans qu'ils le sachent vraiment. Parce que on ne sait pas que les hôpitaux, l'école pour tous, la conception même du temps et même la laïcité sont des legs du christianisme.
Alors, on va détailler tous ces sujets parce que c'est intéressant de rentrer un petit peu dans ces détails. Vous parliez, Christophe Diques, de ces pages sombres. Ça ne veut pas dire que, dire que l'Église a fait du bien, ça ne revient pas à édulcorer ces fameuses pages sombres dont vous parlez. Et c'est vrai qu'en 2000, l'an 2000, le pape Jean-Paul II avait fait repentance pour ses erreurs, les erreurs de l'Église, mais il avait aussi encourager la recherche historique. Et c'est justement cette attention qui vous anime, Christophe Diques.
Oui, exactement, même si j'assume parfaitement le fait que ce livre soit ce qu'on appelle un livre d'apologétique, c'est-à-dire que je fais l'apologie de l'Église. Pourquoi ? Parce que on critique très souvent, ou le plus souvent, l'Église. On dit l'Église a fait ceci de mal, a fait cela de mal, etc. Parce que, alors d'abord, c'est pas l'Église en elle-même d'un point de vue théologique.
Ce sont des hommes d'Église.
Voilà, l'Église a ses salauds, mais elle a aussi ses héros, ses grands hommes, qui méritent tout simplement d'être cités.
Alors, vous écrivez dans votre ouvrage « L'histoire de l'Église révèle qu'il n'y a pas un domaine dans lequel elle n'ait pas exercé son influence ». Nous allons voir ce matin quelques-uns de ces domaines avec vous. Vous évoquiez ce rapport au temps. Qu'est-ce que l'Église a laissé comme héritage dans ce domaine ?
Eh bien, ce matin, vous avez énormément d'auditeurs qui ont regardé leur montre. Si ces auditeurs regardent leur montre, c'est grâce précisément à l'Église, parce que en fait, c'est au XIVe siècle que un père abbé, Richard de Wallingford, a créé la première horloge mécanique qui lui permettait tout simplement de mesurer le temps. En fait, dans le monde monastique, il faut aller au-delà de ça, bien évidemment. Dans le monde monastique, il est nécessaire de contrôler le temps, de connaître le temps. Pourquoi ? Parce que il y a un temps dans le monde monastique, il y a un temps pour prier et un temps pour travailler. Le temps, en fait, dans le monde monastique, devient une valeur. Alors les heures, certes, existent depuis les Sumériens et les Mésopotamiens, depuis des siècles et des siècles, mais le monde monastique est la première institution, qui véritablement vit en fonction d'un rythme horaire. D'où la nécessité de contrôler le temps, de connaître le temps horaire. Mais il faut aller encore plus loin parce que, si vous voulez, pourquoi cette nécessité de contrôle, de connaissance du temps, pourquoi ce temps devient une valeur ? Tout simplement parce que tout un chacun est obligé d'assurer son salut. Et on sort d'une conception cyclique du temps, qui était une conception antique. C'est tout simplement Ulysse qui revient à Ithaque. Non, là, on sort dans une on entre dans une conception progressiste du temps. Non pas progressiste versus conservateur,
oui,
c'est pas le sujet. C'est que, en fait, demain, je dois mieux faire que ce que j'ai fait hier ou avant-hier. Pourquoi ? Parce que je dois assurer mon salut. Et donc, quand aujourd'hui, même les partis d'extrême-gauche parlent de progrès social, de progrès économique, etc., ils s'inscrivent dans une conception chrétienne, sans le savoir, parce que, justement, il faut assurer son salut. C'est pour ça que en dessous des horloges, il était écrit « Tu sais l'heure, tu ne connais pas l'heure. » Tu ne sais l'heure qu'il est grâce à cette horloge mécanique, mais tu ne sais pas l'heure de ta mort, et c'est pour cette raison que tu dois préparer ton salut.
Et oui, c'est ça. Que dire de l'apport de l'Église concernant l'accès aux soins dans les hôpitaux, Christophe Dickès ?
Alors en fait, ça c'est une chose qui est absolument fascinante, parce que on s'aperçoit que l'hôpital tel qu'il existe aujourd'hui, c'est-à-dire qui est ouvert à tous, eh bien, est une conception mais complètement chrétienne. C'est-à-dire que nous sommes au IVe siècle, Basile de Césarée, donc Césarée qui est une des villes les plus importantes de l'Empire romain, c'est là où il y aura, où vivra le grand historien Eusèbe de Césarée, qui est le propre. Et donc Basile crée une véritable ville dans la ville. C'est-à-dire un endroit où on reçoit les orphelins, un endroit où on reçoit les veufs, les veuves, un endroit où on soigne les blessures, où on accueille également les pèlerins. Bref, une sorte de véritable ensemble hospitalier. Et en fait, toute l'action de l'Église est liée bien évidemment possède un fondement évangélique. Et dans le cas de l'hôpital, c'est bien évidemment la parabole du bon samaritain qui nous dit, au fond, quelle que soit la race, quelle que soit la provenance de la personne, quels que soient ses choix, si elle est dans la nécessité médicale, eh bien on doit la soigner. Et c'est exactement ce que fait l'Église. Et là encore, à la différence des sociétés antiques qui étaient des sociétés élitistes, eh bien le christianisme ouvre véritablement l'hôpital à tous. Et c'est même celui qui est le plus pauvre dont on doit s'occuper finalement le premier. Donc il y a une véritable révolution intellectuelle avec le christianisme et qui donne une universalité à l'action et à l'ouverture aux autres. Et on retrouve cette même universalité dans le monde scolaire. C'est-à-dire que l'école obligatoire pour tous, c'est pas du tout Jules Ferry, c'est véritablement les conciles qui, à travers l'histoire, eh bien, demandent à ce que l'école soit ouverte à tous les enfants.
Et c'est justement le propre de l'école catholique aussi, hein, qui dit qu'elle est ouverte à tous et pas seulement réservée aux catholiques.
Exactement. L'école chrétienne est vraiment là, ouverte pour tous. Alors en fait, c'est pas l'Église qui a inventé l'école, mais c'est l'école monastique et ce sont les écoles cathédrales qui ont pris le relais en fait de l'éducation antique. Et peu à peu se sont développées notamment les écoles élémentaires qui, au 8e siècle, en fait, visaient tout simplement à enseigner, quand les écoles monastiques visaient à préparer le jeune garçon à rentrer au monastère.
Oui, à une vocation religieuse. Christophe Dickès, il y a aussi cette distinction entre le spirituel et le temporaire. Le temporel, c'est aussi un héritage de l'Église. Qu'est-ce que cette précision a précisément apporté à la société ?
Alors ça, c'est très important, parce que c'est vrai que nous, Français, avec la séparation de l'Église et de l'État, on a tendance à mettre d'un côté l'Église et de l'autre côté de l'État, ce qui est une réalité juridique, bien évidemment. Mais la distinction, ce qui distingue le christianisme et qui fait de nos sociétés ce qu'elles sont, c'est que, à la différence par exemple de l'islam, eh bien le christianisme distingue le pouvoir temporel, le pouvoir de l'État, du pouvoir spirituel. C'est sur le fondement, là encore, de l'Évangile, il faut rendre à César ce qui appartient à César et à Dieu ce qui appartient à Dieu. D'où la distinction des deux univers, des deux domaines. Et en fait, c'est le très grand historien René Raymond, l'historien de l'Église, René Raymond, et du catholicisme, catéchisme qui disait que, en fait, nos sociétés démocratiques ont pour fondement véritablement le christianisme qui distinguait ces deux univers. Quand vous voyez dans d'autres sociétés, eh bien, de par le monde, c'est absolument pas le cas. Donc, en fait, c'est à la fin du 5e siècle. Alors, saint Augustin ou saint Ambroise commençaient cette distinction, mais celui qui la théorise, c'est à la fin du 5e siècle, le pape Gélase. Et le pape Gélase théorise, en fait, cette distinction du pouvoir des rois avec le temporel, de l'Église, le temporel et spirituel.
D'accord. Voilà. Et effectivement, vous citez René Raymond, il remarquait que la carte des pays où le principe de laïcité est reconnu et à peu près respecté dans la pratique coïncide approximativement avec celle des pays d'imprégnation chrétienne.
Exactement, exactement. Et donc, c'est d'ailleurs le cas du temps. Je vous disais tout à l'heure que le temps avait une valeur, d'où le fait que les marchands au Moyen-Âge disent le temps, c'est de l'argent. Mmh. Et donc, il faut mieux faire sur le plan économique ce qu'on a fait hier ou avant-hier. Mmh. Et il y a des tas d'autres idées chrétiennes qui sont, selon l'expression de Chesterton, devenues des idées folles. Et il y a certaines idées chrétiennes qui se sont en quelque sorte dévoyées et qui ont, pour le coup, produit des choses dans leur extrémité. Mmh. Je vais vous donner un exemple tout bête. Max Weber disait, donc le sociologue Max Weber disait au 19e siècle que le capitalisme trouvait ses origines dans l'individualisme protestant. Mais pas du tout, en fait. L'individualisme, c'est une chose tout à fait catholique qui trouve ses origines dans le confessionnal. Alors, le confessionnal est plus tardif, c'est-à-dire le confessionnal, c'est-à-dire la structure de bois où on se met à genoux, est beaucoup plus tardif. Elle date de l'époque moderne du 17e siècle, si mes souvenirs sont bons. Mais le fait que tout chrétien, on demande à tout chrétien de regarder sa conscience et de voir l'état de ses fautes, constitue un geste purement individuel. Quand avant la confession, c'est-à-dire avant le XIIIe siècle, le concile de Latran IV, en 1215, la confession n'était pas forcément un acte individualiste, eh bien, elle devient au XIIIe siècle un acte individualiste. Et donc, cet acte individuel est une révolution des consciences. Pourquoi ? Parce que on fait précisément confiance aux chrétiens pour regarder sa conscience et voir ce qu'il a fait de bien et ce qu'il a fait de mal. Et en fait, cette idée d'individualisme, eh bien, on sait qu'elle a été dévoyée ensuite, à la suite, dans les siècles suivants.
Alors, individualisme, et puis, effectivement, aussi, cet apport de l'Église qui est la notion de conscience. Et j'imagine que ce sont tous ces sujets que vous allez reprendre dans votre rencontre d'auteurs qui aura lieu demain à l'Institut catholique de Toulouse. C'est donc à 18h le 27 novembre à la bibliothèque Aimé-Georges Martimor. Et je vous remercie, Christophe Dickès. Je rappelle quand même le titre de votre ouvrage, Pour l'Église, ce que le monde lui doit et Saint-Pierre, ce que le monde lui doit. Et deuxième ouvrage, Saint-Pierre, le mystère et l'évidence, tout doux,
aux éditions Perrin.
Chez Perrin. Merci. Oui. Bonne journée.
Merci beaucoup.